on va dire, amenée par Bernard, pourquoi la fête de Pourim s'appelle Pourim? Après tout, c'est vraiment un drôle de nom. C'est le nom qui ne devrait pas être le nom d'une fête, et certainement pas le nom de cette fête. Pourquoi? Alors, pratiquement, on va d'abord voir au niveau formel, et après au niveau fond.
Déjà, ça doit s'appeler pour, pas pourrime. Pour.
Hachem a pour, déjà.
Bon.
Donc, déjà, premier point. Deuxième point, pourquoi en perse? Alors, le mot qui veut dire les sorts, c'est Goral.
Ouais,
On
Goral.
aurait dû appeler la fête du Graal.
Goralim,
Goralot.
Goralot.
Ce serait Goralot.
Pour moi, Goralot.
C'est pas, non, mais Goral, c'était pas évident de savoir que c'est Goralot plutôt que Goralim. Parce que Goral, ça sonne pas assez féminin. Donc c'est pas. Mais dans la Torah, c'est Goralot.
Autant pour moi.
Goral avec un vav.
Goral avec un vav. Pourquoi? Ouais, Goral avec un vav ou sans, peut-être sans vav. Je pas. Alors maintenant, c'est quoi? Finalement, pour, c'est le système que Haman a mis au point pour exterminer les enfants d'Israël. Autrement dit, c'est une sorte d'arme de destruction. C'est comme si que en 1948, on veut appeler le jour de l'indépendance d'État d'Israël, la fête d'indépendance, la fête du Tokarev. C'est quel est le Tokarev?
C'est un revolver.
Le Tokarev, c'était les fusils russes
Ouais.
qu'utilisaient les Arabes au moment de la guerre d'indépendance.
On remarque que c'est le nom qui donne la destruction, ils appellent ça.
Ouais.
48.
Ah oui, la Nakba.
Le Nakba.
Mais on va pas appeler notre jour de fête du nom de l'arbre, c'est assez impensable. En plus de ça, même dans le fond, c'est complètement aberrant. Parce que le sort, ça veut dire que c'est du hasard. C'est-à-dire, le monde fonctionne sur du hasard. Mais non, le monde il fonctionne sur Ashgaha Pratit. La vision de Haman, qui était terriblement perfide, c'était de dire au Béni Israël, il n'y a pas de patron dans le monde. Moi, je fais ce que je veux. Il y a ces tirages au sort. Maintenant, on est dans le hasard. Et le hasard fait qu'on peut mourir comme ça. Alors, on voit de l'histoire d'Esther exactement le contraire. C'est l'histoire d'Esther démontre que la Ashgaha Pratit, elle a à chaque instant. Comment tous les épisodes, toutes les phrases de la Megillah, ça aurait dû être à droite et ça va à gauche. Ça va à gauche et ça va à droite. C'est le contraire de la logique. Je vous donne un petit exemple. Tout début de l'histoire, on nous dit que le roi il demande que la reine vienne et elle vient pas. Ah tiens, elle vient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut la tuer. Et il écoute ce conseiller qui dit qu'il faut tuer la reine. Bon, donc ça veut dire lui, il écoute pour tuer la reine. Quelque temps plus tard, c'est la reine qui dit, le premier ministre, c'est une crapule, il faut le tuer. Et il écoute. On aurait pu penser que c'est exact. C'est certainement la dernière chose qu'il va faire. Puisque lui, il est plus amené à tuer sa femme plutôt qu'à tuer son ministre. Puisque c'est ce qu'on voit au début de l'histoire. Donc on pourrait dire peut-être qu'il a pris la première en
Donc
disant
il a
voilà.
déjà tué une.
Il va tuer une deuxième. Oh, il n'était peut-être pas à ça près, puisqu'il avait gardé la règle qui disait que celui qui vient et qui n'est pas appelé, eh bien, il doit mourir. Donc
On sait qu'il
c'était.
était très énervé d'avoir
Ouais.
attaqué sa sentence.
En tout cas, il y a ici quelque chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que voulait faire c'était quoi le but? C'était les Oumam ou les Abdam. C'est quoi les Oumam ou les Abdam? L'Abdam, c'est les perdre. Donc mais c'est quoi les Oumam? Les Oumam, c'est les terrifier. Donc, le but du décret de Haman, c'est terrifier, faire une guerre psychologique. C'est-à-dire, voilà, vous êtes rien du tout et l'histoire, elle ne fonctionne pas comme vous pensez. Ça, c'était la guerre. Les terroriser. Et leur dire, voilà, votre vision du monde, elle n'est pas bonne. La véritable, c'est quoi? Tout est hasard. Tout est accidentel. Et on fait ce qu'on veut. Et donc, c'est toute une théorie. Alors maintenant, pour comprendre, en fait, ce qu'il s'agit de toute cette histoire, eh bien, on va s'intéresser. Vous allez prendre la Megillat Esther, chapitre 9, verset 24.
S'il vous plaît, vous pouvez me passer un fromage.
Ouais.
Neuf vingt-quatre.
Megillat Esther, page 9.
Page 1300. 1329. C'est la conclusion de l'histoire. On va nous dire, voilà, voilà comment les choses sont passées. 1329. Chapitre 9, verset 24. On va voir le conclusion. Vous le voyez ? Quatrième ligne. Qui ? Haman ben Hamedata Haagagi. Car Haman, fils d'Hamedata, le Haagagéen, Sorer Kol Ayudim, l'ennemi de tous les Juifs, même ceux qui voulaient s'assimiler. Il avait pensé contre les Juifs de les faire perdre. Vipil pour Huagoral. Et il a donc consulté le pour. Il a consulté donc le sort. C'est le Goral, les Oumam ou l'Abdam. Donc pour les terrifier et les détruire. Hein. Et qu'est-ce qu'on dit ? Ouvevoa l'Ifne Ameler. Et quand elle est venue devant le roi, Esther, Amar Ima Sefer, il a dit que l'ordre écrit, Amar Ima Sefer, Yashum Arshavato Ara'a, que revienne sa mauvaise pensée, Asher Hashav Alayudim Al Rosho, qu'il avait pensé contre les Juifs et s'est retourné contre sa tête, Vetalu Oto Vetbana Valaretz. Et on l'a pendu lui et ses enfants sur une potence. Alken, c'est pour cela. Karou la yemim elle est pourim. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces jours pourim. Hachem a pour, d'après le sort a priori. Alken, c'est pour ça. Alkol divrei geret azot, marou al-kacha, tout ce qui était consigné dans cette lettre. Et qu'est-ce qu'ils ont vu là-dessus? Umaïgi alehem, et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ici, la phrase, elle a l'air, les trois phrases n'ont pas l'air d'être dans le bon ordre. On nous dit que Aman ben Hamedata a tiré au sort, il a fait un pour, d'accord. Après, on dit, quand Esther elle est venue, elle a dit que soit annulé et s'est retombé sur sa tête. Et c'est pour ça qu'on a appelé ces jours pourim. Hachem a pour. Normalement, on a trois idées ici. Première idée, l'idée que Aman a tiré au sort. Après, on a l'idée que Esther est intervenue. Et après, on a l'idée qu'on appelle ce jour-là pourim d'après le sort. Mais non, on aurait dû avoir la troisième idée en deuxième. Puisqu'on aurait dû dire que Aman a tiré au sort le truc. C'est pour ça qu'on appelle ces jours pourim. Mais Esther est venue, elle a déjoué le truc. Ça aurait été... Puisque, pourquoi on appelle pourim? D'après le sort. Donc si c'est d'après le sort, colle le verset qui parle, on parle ces jours de pourim, d'après le sort. Et qu'est-ce qu'a fait Esther? Elle a déjoué cette pensée maléfique de Haman. Si on me met le verset qui dit que Esther est intervenue, et après on nous parle du pour, c'est que le pour ne dépend pas. On appelle ces jours pourim, pas d'après le sort, mais d'après le pour. Et ce pour qui dépend d'Esther. Vous me suivez? Puisque, première idée, il y a un tirage au sort. Deuxième idée, il y a intervention d'Esther. Troisième idée, c'est pour ça qu'on l'appelle pourim. Mais, a priori, nous, on aurait pensé pourim, c'est par rapport au pour.
C'est parce que ça s'est retourné. C'est normal qu'on donne la raison avant que c'est Esther qui est intervenue, donc ça s'est retourné.
Non, attends. Le pour, c'est le tirage au sort, c'est pas retourné. Alors, si je te suis, donc ce qui est important, c'est que ça s'est retourné.
C'est ce qu'il dit, c'est ce que dit la Megillah. Elle dit non. Parce que ce qu'il avait projeté pour les Juifs, il l'a eu contre lui. Ouais.
Alors, Yashou, non, ben ça, c'est parce qu'elle est venue et ça s'est retourné. Mais c'est pas le pour, il reste le pour ou le contre. Bon, en tout cas, regardez, il y a ici quelque chose qui est bizarre. On a l'impression qu'on appelle pour en fonction de l'action d'Esther.
Bah, il y en a deux pour, ça fait pourim. Il y a le pour avant et le pour après.
Non, mais quel pour et quel pour a fait Esther? Elle a fait aucun pour, elle.
Comment ça?
Elle n'a pas tiré au sort.
Non, mais elle a changé le sort.
Elle a inversé.
Elle oui.
A inversé. Comme si elle avait fait un nouveau pour.
Non, non, elle a changé le décret. Mais elle n'a pas fait, elle a pas changé le sort.
Comme si elle avait fait un nouveau pour.
Alors, regardez. Quand vous allez voir, pour comprendre ce qui se passe ici, il faut voir quand Esther, elle est sollicitée, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, remontez maintenant quand Mordechai va solliciter Esther.
Mais remarque que là, tu ne réponds pas au fait que c'est pourri, mais alors qu'on dit du nom du pour. Pourquoi pourri? Ben pourquoi pas pour?
Mais c'est pas le sujet.
C'est le nom de la fête.
Oui,
mais il n'est pas dessus.
Non, non, c'est pourquoi pour? Pour pourri, mais c'est pas ça. Mais pourquoi pour? Pour, a priori, c'est le sort.
Ça, oui.
Et le sort, ça me gêne parce que c'est pas ce qui est le plus sympathique pour nous.
Oui, mais il s'est retourné, le sort.
Oui, c'est oui. D'accord, retourné, mais le sort, il reste mauvais sort.
Oui.
Ah, et donc ça sort mal.
Remarque que quand même la Megillah, elle te dit pour, elle te dit que c'est le goral. Alors non, c'est le goral. Ils l'ont tiré, les bénis d'Israël, le goral. Mais c'était pas du sort.
Si.
Non, parce qu'il s'est tombé exactement ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'en fait, il a désigné...
Tu parles de quel goral, toi ?
Quand ils ont attribué les territoires.
Les territoires, d'accord.
Ils avaient déjà attribué... Et le pour et le goral...
Le goral a confirmé le truc.
Donc on voit que c'était pas du goral.
Donc c'est pas du goral.
Et là, on te dit que c'est le goral. Donc d'accord. C'est la même chose.
Regardons, on va suivre. Ce que je vous développe, là, c'est du Rav Forman que j'ai trouvé sympathique. Et je me suis dit vous faire partager. Regardez quand... on est page 1324. Juste... Et si on peut avoir un verre, je crois que tu peux. Là, il est propre,
avec
je
veux dire. Avec de l'eau.
Je vais te laver.
Merci. Merci là. Hein.
De l'eau dessus.
Avec de l'eau dedans.
Ah, tu veux de l'eau?
Oui.
Il y a
je vais vous faire une démonstration avec le verre.
Maintenant, si on parle l'eau sans le verre, c'est
pas possible. Abdelhamim, merci. Merci, Bernard. Baruch ata Adonai. Eloheinu melech ha'olam shehakol nihyeh bedvaro.
Amen.
Amen.
Qu'est-ce qui se passe? Mordechai, il apprend le décret, il s'habille avec du cilice, etc. Et tout. Il va devant le palais royal, et Esther dit, Mazé, va le Mazé, qu'est-ce qui se passe? Et Mordechai dit, voilà, il y a un truc, il faut que tu ailles voir Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle répond Esther? Attends, c'est pas le bon moment, parce que celui qui va chez le roi et qui n'a pas été invité, il est condamné à mort. Donc ça veut dire que si je vais comme ça, je vais avoir besoin d'une grâce pour me sauver déjà la vie. Alors si j'ai besoin d'une grâce pour me sauver la vie, et en plus de ça, je veux négocier pour la vie des autres, c'est pas bon. Regarde, c'est mieux, on attend un peu. Moi, ça fait un mois que j'ai pas été appelé, donc il va m'appeler dans pas longtemps. Donc, et là, bah, quand je serai appelé, j'ai une carte pour pouvoir demander. Et alors là, donc elle dit, je peux pas aller maintenant. À ce moment-là, qu'est-ce que dit Mordechai? Page, donc on est chapitre 4, verset 13. 4, 13. Vayomer Mordechai l'a achivé à Esther. Mordechai a dit de répondre à Esther. Al tedami benafcher. Ne t'imagine pas dans ton âme, l'imalet betameler bicolayudim. De te sauver dans la maison du roi de tous les juifs. Kimacharesh harishi. Parce que si Esther, tu te tais, bah et azot, à ce moment-là. Rebar veatsela yamol ayudim imakomacher. La délivrance pour les juifs viendra d'un autre endroit. Ve'atu betavir tovedu. Et toi et la maison de ton père, vous serez perdus. Miodea. Et qui sait, Imlet Kazot, Igat Alamakut, si en fait, tu n'es pas là justement pour ça. Alors ici, il y a quelque chose qui est très. Qui est bizarre.
Bien sûr, c'est dans un an.
Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Esther. Esther dit, tu sais, je ne peux pas aller maintenant. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Mordechai? Il aurait dû dire, Esther, tu es dans une place très importante. Tout dépend de toi. On dépend de toi. Donc, il faut que tu y ailles. Parce qu'on dépend tous de toi. Et il lui dit exactement le contraire. Il dit, si tu ne veux pas, on s'en fout. C'est pas pour nous que tu vas aller. C'est pour toi. C'est-à-dire, si tu dors, répare pas, c'est là, il y a mon œil, il dit, nous, on va vivre. On n'a pas besoin de toi. Si vous voulez responsabiliser une personne, vous lui dites, mais tu sais, tu as une place très importante. C'est toi, tout dépend de toi. On ne va pas dire, tu sais, nul est indispensable. On n'a pas besoin de toi. En fait, bon, c'est dans ton intérêt que tu vas intervenir. Ce n'est pas dans le nôtre. Parce que nous, on a d'autres solutions. Ce n'est pas la meilleure solution pour motiver une personne à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Elle a dit, moi, je ne suis pas tellement chaude. Alors, elle dit, mais si, il faut que tu le fasses. On ne peut pas lui dire, moi, tu ne veux pas. C'est pour toi que tu le vas faire, ce n'est pas pour nous.
Psychologiquement, c'est intéressant de faire parler comme ça. Ouais. Ça pousse l'individu des fois
à... Oui, c'est parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on dit, bon, tu fais ce que tu veux, mais de toute façon, on n'a pas besoin de toi, c'est Gadol Mitsuvé Vosé, Michel Mitsuvé Vosé. Celui qui a l'ordre de le faire, il a plus de mérite que celui qui n'a pas d'ordre de le faire, parce que celui qui a l'ordre de le faire, il y a Yetzera qui l'empêche. Alors que s'il n'a pas d'ordre, tu fais ce que tu veux, c'est très bon. C'est en effet, c'est une possibilité. Mais en tout cas, ici, il y a un paradoxe de qu'est-ce qui est primordial et qu'est-ce qui est négligeable. Et là, il y a une connexion qui veut dire « Ki marresh tacharishi » « Si taire, tu vas te taire ». Ici, l'histoire d'Esther va être reliée avec des mots à une autre histoire à laquelle on n'aurait jamais pensé la relier. Et là, bon, je rajoute des choses par rapport à Forman, c'est que le jour de Kippour, Kippourim, est introduit avec un truc qui est, pour beaucoup, c'est la pièce maîtresse la plus importante du soir de Kippour. S'il n'y a pas ça, c'est plus important. Alors que quand on se demande même pas qu'est-ce que ça vient faire à Kippour. Et même quand on regarde la Gemara, on voit que dans la Gemara, c'est un Rosh Hashanah, que ça doit se faire. C'est Kol Nidre.
Kol Nidre, c'est pour le Kinnous.
Et quoi ?
C'est pour le Kinnous.
Pourquoi
le
Kinnous ?
Pour pouvoir réinclure dans la prière tous ceux
alors,
qui sont partis. Donc,
ça, c'est la Tamakom. Ça, c'est la Tamakom. Mais le Kol Nidre en lui-même, c'est les vœux. Qu'est-ce qu'il est vœux, Yvan ? Qu'est-ce qu'il veut en faire, les vœux ici ?
L'annulation des vœux.
Annulation des vœux. Qu'est-ce que ça vient faire dans la veille de Kippour ? Et là, il y a quelque chose qui est remarquable. C'est que Kimachresh Taharishi, c'est une notion de silence qui est très particulière. Pour dire rester un silencieux, on peut dire l'ishtok ou la harish. C'est deux termes qui se ressemblent mais qui n'ont pas exactement la même chose. L'ishtok, ça veut dire se taire, mais ça peut aussi s'appliquer aux choses, pas seulement aux personnes. Par exemple, quand on parle de Yona, Yona c'est qui pour encore, Yona, quand on parle de la mer qui va se calmer, il y a marqué ishtok ayam. Donc la mer va s'apaiser, et donc ça peut être ça peut s'appliquer. Alors que la harish, ça du mot cheresh qui veut dire sourd, c'est agir comme si qu'on n'a rien entendu ou faire le silence, mais c'est quelque chose de humain, c'est vivant.
C'est parce qu'il y a du son nécessairement dans harish.
Harish, il peut avoir un son et on fait le sourd.
Oui, mais au départ, il y a un problème de son.
Et puis avoir, au début, il y a un son.
D'accord.
Et alors, et Maharesh Taharishi, Acharesh Taharish, ça se retrouve que deux endroits, dira Forman, dans le Tanakh, c'est ici et dans la paracha des Nedarim. Et donc, regardez la paracha début de Matot. Paracha de Matot. C'est très bizarre cette histoire, parce que paracha de Matot. Page 956, on est dans Nombre, chapitre 30, on va aller directement à Kimimachesh Tacharishi. Voilà, chapitre 30, verset 15. Vimachesh Yacharish Laisha. 958. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit d'une femme qui fait un vœu, et que ce vœu a plusieurs possibilités. Il peut être soit ratifié par son mari, soit annulé.
Ouais.
Soit il reste silencieux. C'est Aymarech Tacharich. Aymarech Tacharich. Donc ça veut dire que le mari il peut soit Yikimenu, Ishaï Kimenu, Ishaï Ferenu, soit il peut le casser, soit il se tait. Mais Beyom Shomo, il y a un principe qui, ça doit être le jour où il entend. Donc il y a une urgence de la chose qui se fait au bon moment. Ça s'applique, ça, donc, d'un père vis-à-vis de sa fille ou d'un mari vis-à-vis de sa femme. Donc ça doit se faire le jour. Et donc on dit Ishaï Kimenu, Ishaï Ferenu. Le mari pourra le ratifier ou il pourra l'annuler. Vimacharech acharish laisha. Et si le mari reste muet, reste sourd à ça, alors Veikim et Kondera, le muet n'existe pas. C'est comme si qu'il l'avait ratifié. Ici, remarquez que quand on parle de la jeune fille, on parle du Nahara. Nahara, c'est exactement le terme qui est utilisé pour Esther dans la Megillah. Donc on a Nahara, on a Harish et Harish. On a des connexions qui vont nous lier la paracha des vœux de l'homme, de la femme qui va se faire des vœux qui vont être mortificateurs pour elle, et que le mari peut annuler. Et donc maintenant,
elle fait
un vœu, et le mari peut annuler ou le ratifier.
Dans la Megillah, Esther, elle s'est tue à l'injonction de...
Au début, elle doit se taire.
Mais quand il lui a dit tu fais ce que tu veux, tu vas, de toute façon, on y arrivera nous.
Oui, alors là, elle ne se tait pas.
Ah.
Non, là, elle dit l'Erkenos et Koleyodim. Elle, la réponse qu'elle dit, c'est rassemble tous les juifs et moi, je vais aller. Et donc elle a dit je ne vais pas me taire. Pardon ?
C'est quoi le cas ?
Elle s'est tue jusqu'à présent parce que Mordechai lui a dit ne dis pas de qui que tu es une juive, ne dis pas de quelle maison tu es. Et elle laissait planer. Elle était un silence. Mais ici, ce qui est de remarquable, c'est que il y a le silence, on pourrait dire, le silence neutre n'existe pas. C'est soit un silence qui veut dire oui,
qui dit mot consent,
soit c'est s'opposer et dit non, je suis contre.
C'est le problème de Job.
Alors,
qui ne s'est pas prononcé lorsque le pharaon lui a demandé aux trois conseillers la position sur l'extermination des juifs.
Ah, oui.
Il y en a un qui a dit oui, je suis pour, l'autre
c'est Bilram.
Contre,
j'ai dit trop.
C'est trop. Et Job, il n'a rien dit.
Et Job s'est têtu. Et donc, on dit que Job va souffrir
à cause de ça.
C'est têtu. Et donc, il y a ici, finalement, quand on dit il y a celui qui croit, et celui qui ne croit pas, et puis il y a celui qui dit je ne sais pas. Il y a oui, non et peut-être. Le peut-être, finalement, il n'a pas sa place. Il est obligé de s'engager, soit dans oui, soit dans le non. Et c'est ça, Macharish, Acharish. Macharish, Acharish, ça veut dire oui, tu es engagé. Tu n'as pas un silence neutre.
Il y a la journée, quand même.
Il y a la journée pour le faire, mais qu'une journée. C'est court. Et donc, c'est pour ça, Kol Neder, Vechol, Shevuat. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, le mari? Donc, s'il se tait, il le ratifie. Il dit OK. Mais sinon, qu'est-ce qu'il fait? Comment s'appelle l'annulation du mari pour dire, quand il veut... Non, c'est pas Tara. Comment s'appelle l'annulation du vœu qu'un mari fait vis-à-vis de sa femme?
C'est le rarichi.
Non, ça c'est quand il se tait. Donc, quand il se tait, il le... comment il fait le contraire de rarichi? Le contraire de... c'est-à-dire, oui, quand il se tait, il ratifie. S'il se tait, c'est comme s'il était d'accord, le vœu est scellé. Mais si maintenant, lui, il intervient et dit non, je l'annule, donc le chacham, quand il annule, il fait natara, atarat nedarim. Et l'autre, c'est quoi? Patareha. C'est le pour. C'est afarat nedarim. Isha, Yekimenu, Isha, Yeferenu, Yefer, c'est pour. Et donc le pour, c'est quoi? C'est l'annulation du vœu, c'est l'intervention que le mari fait pour casser le vœu de la femme.
Il y a un lien entre afar et pour.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est énorme.
C'est phénoménal. Et donc ça veut dire que Isha, Yekimenu, Isha, Yeferenu, quand on le lit, Isha, il y a un mapik, c'est-à-dire le mari va l'annuler ou le mari, mais si...
Et le père, non ? C'est pas le même mot pour le père ?
Là-bas, non, le père, c'est... non, c'est, Isha, c'est le mari, c'est le mari. Mais la Torah est écrite sans voyelle. Donc si je ne mets pas de point dans le mapik, j'ai Isha Yeferinu, une femme l'annulera. Dans quel cas la femme va annuler ? Non, le vœu d'Hachem. C'est Esther. Isha Yeferinu, vœu voal ifne ameler. Quand, je reviens maintenant à la Megillah, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait Ipilpour ou Agoral. Donc il a fait un Goral. Et après on nous dit Esther, elle est venue, elle est intervenue. Ça veut dire que quoi elle est intervenue ? Elle a fait la Afara. C'est-à-dire, elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'a dit Mordechai ? Qui m'acharesh la chamishi ? Si tu te tais, alors tu vas être perdu. Donc elle ne se tait pas. Finalement, elle intervient. Donc si elle ne se tait pas, elle fait la Afara. Elle fait le pour.
En fait, c'est elle l'homme, quoi.
Elle fait un peu l'homme de l'histoire des vœux. Et donc, elle fait une Afara, entre guillemets, à Hachem. Mm-hmm. Et donc, elle rentre dans l'histoire et elle casse le décret. Et donc, si on appelle la fête de Pourim, c'est pas d'après le tirage au sort de Haman, mais le pour de Esther qui a cassé, qui a validé en s'engageant et en ne restant pas
invité. Elle est belle. Oui, mais alors donc, elle a fait un pour.
Oui.
Et Haman, il a fait un pour.
C'est Pourim. Pourim.
Ah ouais, c'est ça, Pourim.
Mais non, je ne dirais pas comme il dit Forman, moi. Je ne dirais pas comme ça.
Toi, tu dirais comme...
Je ne dirais pas comme ça, parce qu'en fait, il a tout trouvé, mais il n'a pas conclu. La conclusion, ce n'est pas ça. La conclusion, c'est que qui c'est qui lui avait... Elle a fait un vœu. Qui c'est qui lui avait demandé de se taire ?
À la base,
c'est Mordechai. Mordechai.
Oui, oui.
Mordechai, il est quoi pour Esther ? Il est son mari, selon certains.
Oui,
et là, qu'est-ce qu'il est en train de lui faire ? C'est lui qui lui fait le pour. C'est lui qui la délie.
Bien.
Et quand il la délie, à ce moment-là, elle peut aller.
Oui.
Et donc, c'est pas elle qui se délie. C'est Mordechai qui la délie, comme c'est dit dans la Torah. C'est lui qui le fait.
C'est pas mal. C'est le prolongement et
oui.
Donc c'est ça le Pourim.
C'est
pas
ça,
le pour d'Aman.
C'est ça le Pourim.
Le Pourim, c'est
le pour. C'est vraiment celui-là.
Et donc maintenant, donc on comprend que finalement le nom de la fête n'est pas dépendant d'un hasard, mais il est dépendant d'un engagement de ne pas rester silencieux devant une histoire.
Et le lien avec la poussière, avec
Afar. Afar, c'est avec Aïn.
Ça n'a rien à faire avec ça.
Ça. Mais on pourrait chercher.
On pourrait, oui, c'est comme tu le dis. On pourrait.
On pourrait. Et donc il y a une notion d'annulation qui va être décidée par un choix. Et de la responsabilité.
Ça renvoie un peu à Shirachim, cette relation entre Hachem, Esther.
Oui. C'est dans notre rapport avec Dieu comme un rapport de mariage.
Voilà, parce
pas mal.
L'homme qui doit lever c'est l'homme qui doit lever le néder, mais c'est la femme qui lève le néder. Donc la femme dans Shirachim, c'est le peuple d'Israël. Donc il y a tout. On peut relier ça aussi à la phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai à propos du Mishté, qui disait mais pourquoi ils ont failli être exterminés?
Oui.
Parce que ils sont allés au Mishté, mais ils ont fait semblant. Mais Hachem aussi, il a fait semblant.
Oui. Alors là, comment
Je sais pas, c'est intuitif, mais.
Ah, c'est intuitif, ouais.
J'arrive pas encore à structurer, mais vous voyez ce que je veux dire.
Je vois pas le pont. C'est très juste, mais comment le pont entre mariage? Mari et femme, ils ont fait semblant dans le Mishté, et Dieu a fait semblant. Ah oui, donc c'est-à-dire c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Vous faites semblant, je fais semblant. Comme dans un couple, toi tu fais ça,
voilà,
moi je fais ça.
Un peu. Non, ouais, ça va, mais je
prolonge votre propos par le fait que les deux textes, oui. Esther et Shirachim, n'ont pas le nom de Dieu.
Ah oui.
Et c'est les deux textes qui sont lus à un mois de différence. Esther à Pourim, Shirachim à Pessah.
Parce que dans les deux, il y a un voilement de la manifestation d'Hachem.
Ouais.
Ouais. Et que ça se manifeste dans d'autres actes et dans d'autres comportements, comme justement les deux pour, ouais. Les deux pour différents et le pour de, et c'est comme vous voulez dire, le pour d'Esther. Mmh, 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 mmh. Vous voyez ?
On peut. Il y a
quelque chose à creuser.
Il y a quelque chose.
C'est intuitif, c'est tout.
Il n'y a pas une impression de quelqu'un qui reste silencieux.
Oui.
Souvent face à un affrontement comme ça.
Ouais. Ah là, c'est très méritoire. Ah,
ouais. Alors, c'est pas évident. C'est 14.
Oui, celui qui.
Là en fait, il y a une notion.
On provoque, mais là, il n'y a pas de provocation.
C'est une situation.
Non. Alors, je pense qu'ici, quand on parle de silence. Et de non-silence, c'est pas forcément de réaction par rapport à une parole, mais de réaction par rapport à la responsabilité qu'on peut avoir face à une situation.
Quand on répond pas à quelqu'un qui
tente de
vous peut-être d'être remis d'équerre, c'est pas évident.
Hein. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Mais le havaf qui était HMH, il y a, j'avais un truc, j'avais développé à la radio, tout un truc sur la simcha, la joie. Et parmi les entrées sur la simcha, il y a une entrée qui est très intéressante. C'est dans le psaume de Pessah. Non, c'est pas de Pessah, excusez-moi. C'est le psaume qui est avant, qui est dans la région, mais c'est pas. Il y a marqué Vaismehu ki ishtoku. Ils se sont réjouis parce qu'ils se sont tus.
Ah, ishtoku.
Donc ça veut dire qu'il y a une notion de simcha qui est liée avec Shmirat HaLashon. Donc il y a donc, et ça va dans le sens que vous voulez dire. Et
puis c'est terre.
C'est terre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit ? Shemen uktoret ismah lev.
Il réjouisse le cœur.
C'est dans le livre de Rav Menaché. L'huile et les encens réjouissent le cœur. Ou metek re'eu ma'atzav nefesh, et la douceur vis-à-vis de son prochain permet de d'enlever et de bons conseils. C'est Proverbes chapitre 27 verset 9. Et alors à propos de Shemen Uktoret, Ktoret, ça pardonne la faute du lachon hara, hein, puisque c'est d'avoir Shemen Chashay, et Ktoret c'est souvent cachette le lachon hara. Et Shemen c'est quoi? C'est encore le langage. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Psaume 21 verset 23, Shomer pivul shono, Shomer mitzarot nafsho. Celui qui garde sa bouche et sa langue, il se garde son âme de tzarot. Shomer mitzarot nafsho, initial shemen. Shomer mitzarot nafsho. Et donc, c'est quoi l'huile? C'est quand on sait prendre de la hauteur. Il y a quelque chose. On lui dit quelque chose. Je laisse. Comme l'huile qui surnage et qui laisse tomber. Donc c'est la chose qui peut être.
Mais dis-moi, une mer d'huile,
exactement.
Ouais, ça bouge pas. Donc les grands personnages qui prennent de la hauteur, il reste un paradoxe quand même.
Il reste un paradoxe.
Oui, il reste un gros paradoxe dans ce que tu as dit.
Ouais.
Il lui dit vas-y maintenant.
Oui.
Mais c'est dans un an.
Oui. Mais il faut urgence quand même.
Elle lui dit, non mais place-toi dans la situation.
Un jour,
c'est dans un an.
Un jour, c'est un an.
Et elle lui dit, mais écoute, tu sais, je risque ma vie si je vais. Attends, il va m'appeler, c'est dans le mois. Mm-hmm. Toi, tu es Mordechai. La logique, tu sais que c'est dans un an. Mm-hmm. Tu dis, j'attends le moment précis, propice. Elle est la reine, elle sait qu'elle va être appelée. Ouais. Je vais attendre le moment. Ouais, c'est quand même, c'est un paradoxe énorme.
Alors je te dis pourquoi. Parce que Mordechai a conscience que la puissance de la parole ou du silence, c'est maintenant et c'est pas dans quelques jours. Parce que maintenant, c'est Pessah. Ils sont le 13 Nissan. On est juste
Pessah,
avant.
Pessah, la bouche qui parle.
Donc, si tu laisses passer une semaine.
La question, t'as la réponse.
Si tu laisses passer une semaine, il n'y a plus. Après, c'est le silence. Et donc, il ne pourra pas.
Magnifique.
Voilà, donc ça c'était un petit.
Tout ça s'est passé sur un an en fait.
Ça s'est passé sur moins d'un an. Entre le Pessah là où il y a eu 11 mois. C'est-à-dire entre le décret de Haman et. Juste au niveau des temps. C'est intéressant de remarquer. Le premier festin, c'était la troisième année du règne de Achashverosh. L'accession de comme reine d'Esther, c'était à la septième année, quatre ans plus tard. Et le décret infâme, c'était la douzième année. Donc c'était cinq ans après que Esther était reine. Maintenant, entre le moment où Haman monte en haut de l'affiche et sa chute, il y a 70 jours. Et donc après, il y a 70 jours entre le moment où il y a les premiers décrets qui disent, c'est le 13 Nissan, où il faut détruire les Juifs. Et c'est pas au moment où Haman est pendu que ça s'arrête. Non, il est pendu, mais il y a toujours les décrets, ça bouge pas. Il faut attendre le 23 Sivan, où Esther revoit le roi, elle dit, attends, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas laisser mon peuple comme ça. Et là, il dit, bon, vous pouvez réécrire un nouveau décret. Entre le 13 Nissan et le 23 Sivan, il y a 70 jours. 70. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de 70. Et 70, qu'on pourra encore développer. D'accord.